La chronique qui déballe. Une émission pour mieux consommer et protéger votre santé, sans oublier la planète. Bonjour Strasbourg, bonjour au quartier Neuhof, bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez ce matin pour un nouvel épisode de notre émission radio, La Chronique qui déballe. Une émission pour parler santé et environnement à travers les objets que nous utilisons au quotidien. Un espace radiophonique pour échanger avec des experts afin de préserver notre santé et l'environnement des substances toxiques qui peuvent se trouver dans les produits que nous utilisons tous les jours sans le savoir. Alors comment apprendre à identifier ces produits à risque tels que des perturbateurs endocriniens, des allergènes et d'autres pesticides ou micropolluants? Vous êtes dans la chronique qui déballe, l'émission qui donne la parole aux habitants du quartier du Neuhof. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis la maison de la petite enfance au Neuhof. Merci à vous de nous accueillir. Nous consacrerons cet épisode à notre alimentation et plus spécifiquement aux emballages alimentaires en plastique et autres contenants. Alors barquettes, gobelets, bouteilles, quelles substances toxiques cachent-ils? Quel impact pour la santé et l'environnement provoquent ces emballages en plastique à usage unique? Et quelles alternatives pour une alimentation saine et zéro déchet? Pour parler de tout ça, restez avec nous, nos invités répondront à vos questions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Adrienne Magnus et Abdelkader Anza Asfa, tous deux encadrants techniques au pôle de distribution des Jardins de la Montagne Verte. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous avons également Pierre-Jean Dessèze, administrateur de l'association locale UFC Que Choisir du Bas-Rhin. Bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Avec nous également Ludivine Quintalé, conseillère d'Alsace à la CEA et l'une des fondatrices de l'initiative Cantine sans plastique Strasbourg.
Bonjour à toutes et tous.
Également Mélanie Lemorcédec, nutritionniste à la Maison de la Santé du Neuhof.
Bonjour. Bonjour.
Et peut-être plus tard, il n'est pas encore arrivé, Jérôme Fontenot, animateur des ateliers Ordonnance Vert. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement. Les emballages alimentaires en plastique représentent 45% des plastiques produits dans le monde, selon une étude publiée par le journal National Geographic en 2020. Il suffit de se rendre dans les rayons des magasins alimentaires pour trouver des centaines de produits emballés dans du plastique. Pour connaître les habitudes des consommateurs, les défricheurs sont partis à la rencontre des habitants du quartier du Neuhof pour recueillir leur avis sur la question. Écoutons-les.
De quelle manière faites-vous attention aux emballages plastiques lorsque vous faites vos courses alimentaires ?
Alors, pour commencer, je fais au maximum de prendre en vrac. J'ai des bocaux en verre à la maison et du coup, j'essaye au maximum de prendre en vrac, ce qui n'est pas toujours évident. Au niveau tarif, franchement, je trouve que c'est toujours en fait dans l'abus. Dès qu'on veut faire attention à quelque chose, on nous pompe dans le porte-monnaie et je trouve ça tellement dommage. Donc, il y a des choses, on prend en plastique avec des emballages, merci, et des autres, on met le prix, mais on, voilà.
J'essaye de prévoir déjà des petits cabas en des petits sachets que j'ai déjà à la maison, donc pour ne pas acheter justement le plastique. Tout ce qui concerne les hygiènes, donc nous on privilégie un plus des aliments solides.
Alors j'essaye d'acheter un maximum en vrac et si j'achète du plastique, j'essaye de faire gaffe à ce que ce soit du recyclé ou recyclable en tout cas.
J'ai pas forcément le temps de regarder est-ce que c'est du carton, est-ce que c'est du plastique, tout ça, c'est ça en fait.
J'essaye de prendre ce qu'il y a le moins d'emballage. On essaye d'acheter local, d'acheter des emballages en verre aussi. Ça c'est chouette pour réutiliser les bocaux.
Pensez-vous que ce plastique peut empoisonner les aliments ?
Rien que pour chauffer, si jamais on chauffe quelque chose ou pour les petits, c'est pas agréable. Du coup, nous, on est passé au vert, en tout cas pour la petite. Et puis, il faudra un jour les jeter. Donc, je pense que ça ira, je sais pas trop où.
On le sait tous, on parle de microplastiques qu'on ingère. Après, pour l'environnement aussi, il faut faire attention à l'environnement, donc c'est pas forcément que la santé.
Sur ce qu'ils mangent, après, oui, évidemment. Surtout là, j'ai le poisson qui me reste en tête, mais oui.
Écoutez, je trouve que pour la planète, tout le monde. Le tri, il faut trier. Même si nous, on trie derrière, c'est sûrement même pas trié. C'est pas respecté, donc ça passe pas en recyclage. Et du coup, la planète va très mal.
Quelles seraient les solutions et les alternatives ?
Alors, ce qui n'arrivera pas, mais c'est diminuer les tarifs, en fait. Par exemple, il y a une application Too Good To Go, d'un marché bio, de ferme bio. Et du coup, ça permet à ceux qui ont des petits budgets de pouvoir y aller. Moi, avant, j'y allais pas parce que j'avais pas forcément le budget. Et maintenant, du coup, j'y vais parce qu'avec ces paniers, on s'en sort beaucoup mieux. Même que d'acheter normal, quoi.
Les paniers
proposés. Et puis, essayer d'un peu baisser les prix pour que tout le monde puisse y accéder, quoi.
Tout simplement d'arrêter de consommer le plastique. Bon, je sais que c'est pas possible entièrement, mais oui, difficile. De bien trier, de bien surveiller si, par exemple, il y a des plastiques qui sont travaillés et qu'on peut faire des habits avec.
Peut-être plus de faire plus de conserves. Ça, j'en fais pas beaucoup. Et voilà.
Tout mettre en carton. Rien du plastique, parce que même que ce soit du lait, tout ça, tout est dans du plastique. Et l'odeur du plastique, même l'eau, tout ça, ça reste l'odeur du plastique.
Donc, surtout faire du fait maison. Voilà.
On comprend donc à travers ce micro-trottoir que c'est déjà une problématique que les gens mettent en œuvre au quotidien, mais qui est encore difficile à atteindre pour le zéro plastique à 100%. Je me tourne donc vers vous, les experts. Qu'en pensez-vous de ce micro-trottoir ? Madame Quintalet, un commentaire peut-être ?
Oui, j'ai trouvé que les remarques étaient très justifiées. Il y a du plastique partout et le plastique n'est pas neutre. Soit il se dissémine dans l'environnement, soit on en ingère à notre insu. Et d'après, en tout cas, les dernières études qui ont été faites, il se pourrait que chacun d'entre nous mange l'équivalent d'une carte de crédit en termes de quantité par semaine de plastique. Donc la réflexion est vraiment justifiée.
Et je me tourne vers vous, les jardins de la Montagne Verte. On a pu entendre que Too Good To Go, par exemple, est-ce que c'est une autre solution qui est valable ?
Alors oui, c'est totalement une solution qui est valable. C'est vrai qu'on l'utilise, nous aussi, et ça nous permet d'éviter le gaspillage alimentaire et en plus de ne pas utiliser de plastique pour des personnes aussi qui ont un peu moins accès aux légumes frais, primeurs, etc., bio.
Et Monsieur Dessèze, alors, c'est quelque chose que vous pouvez constater chez UFC Que Choisir ?
Alors, ce qui m'impacte peut-être le plus, c'est la justification pour utiliser le plastique, la justification du point de vue du consommateur, et en particulier le manque de temps, le fait que quelquefois c'est moins cher que le vrac, ce qui est absolument affreux. Et puis, bien sûr, des préoccupations environnementales, ce qui est nouveau, et ce que j'apprécie particulièrement dans ce micro-trottoir.
Madame Le Marcédec, un commentaire pour terminer ?
Oui, en fait, les commentaires ont été assez vastes et ont représenté un petit peu toute la problématique environnementale, ce qu'on peut faire en pratique au quotidien. Et là, il y a de quoi faire. Je pense revenir à des choses de bon sens qu'on avait l'habitude de faire avant et qu'on a un petit peu perdu.
Nous allons donc essayer de comprendre tout au long de cette émission en quoi la consommation de plastique dans notre alimentation peut être problématique. Mais quel est le constat initial ?
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
Acheter des aliments emballés n'est pas qu'une pratique des citoyens, c'est aussi une pratique des cantines et des restaurants collectifs. Pour approfondir ce sujet, nous avons invité Ludivine Quintalet, l'une des fondatrices de Cantines sans plastique, association nationale fondée en 2018. Une initiative portée par des parents d'élèves mobilisés autour des risques sanitaires liés à l'usage des plastiques dans la restauration scolaire. Madame Quintalet, je me tourne donc vers vous. Racontez-nous comment est née cette belle initiative, quel a été le déclic initial ?
Il y a quelques années, j'étais jeune maman à cette époque et la ville de Strasbourg faisait la promotion des aliments bio dans les cantines scolaires de la ville. Et donc j'étais tout à fait persuadée en mettant mon enfant à la cantine qu'il avait une alimentation saine et sans produits chimiques. Et puis en discutant avec d'autres parents d'élèves qui étaient donc représentants élus et qui avaient eu l'occasion de se rendre à la cantine, ces parents m'ont indiqué que les repas étaient livrés dans des barquettes en plastique et réchauffer à même ses barquettes avant d'être servi aux enfants. Et c'est vrai que j'étais très très choquée à cette époque-là, puisque j'ai vu une incohérence totale entre le fait d'acheter des aliments bio, donc plus chers et exempts de substances chimiques non traitées, donc ces aliments bio, et de les mettre ensuite dans du plastique, de les réchauffer dans du plastique, parce qu'on sait que la réchauffe augmente, libère des molécules de plastique dans le repas,
oui, voilà.
Et pour donc des enfants qui sont une population particulièrement sensible aux perturbateurs endocriniens, aux substances chimiques, parce que en pleine croissance. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a quelques années, on se préoccupait du contenu, mais pas du contenant. On occultait totalement cette question. Et puis, je me suis donc tournée vers d'autres parents. Je les ai informés. Et puis, ensemble, on a donc, on s'est mobilisés et on est allé voir la mairie de l'époque, qui était l'ancienne municipalité, pour voir comment on pouvait faire changer cette situation dans notre ville. Je pensais à cette époque qu'il s'agissait simplement de retirer ces barquettes en plastique. Mais j'ai découvert que ces barquettes font partie d'un processus industriel et qu'on ne peut pas les retirer si simplement. Il faut sortir de ce modèle industriel où les repas sont préparés à l'avance, puis livrés, ce qu'on appelle la liaison froide. Et donc la barquette est inhérente en fait à ce process. Et par la suite, j'ai également découvert que ce n'est pas seulement la ville de Strasbourg, mais c'est la plupart des grandes villes nationales qui fonctionnent en liaison froide et donc avec ces barquettes jetables. Et puisqu'à l'époque, avec les parents, nous étions mobilisés, nous avions créé une pétition qui avait recueilli près de 1000 signatures, nous avions travaillé avec les journalistes qui avaient fait de l'information vaste. Eh bien, cette information s'est diffusée au niveau français. Et donc, d'autres collectifs se sont créés un peu partout en France, à Bordeaux, à Paris, à Lyon. Et à l'époque, les parents et moi, on avait créé donc, un collectif qui s'appelait Projet Cantine Strasbourg. On était du coup très sollicités par d'autres citoyens et d'autres collectifs qui se créent un peu partout et qui interpellaient leurs élus.
Et à votre avis, pourquoi ça a fait autant de bruit? Pourquoi ça a pris autant d'ampleur et c'est devenu national? En 2018, vous êtes devenu une initiative totalement nationalisée. Qu'est-ce qui a fait que ça a autant touché les parents?
Les parents, il y avait une certaine confiance envers leur collectivité quand ils mettaient leurs enfants à la cantine. Et ils ne pouvaient pas s'imaginer que les repas pouvaient être réchauffés dans des matières plastiques avant d'être servis aux enfants. Parce qu'il y a des parents qui font très très attention, on l'a entendu dans ce micro-trottoir. Il y a cette attention de chacune et chacun d'entre nous quand on est parents, encore plus pour servir une alimentation saine à nos enfants, on se pose des questions. Et les parents ne pouvaient pas s'imaginer, surtout... puisqu'il y avait la promotion des aliments bio dans les cantines, que les repas étaient réchauffés dans du plastique. Et effectivement, à la suite de ces nombreux collectifs qui se sont créés un peu partout en France, nous avons créé l'association Cantine sans plastique France en 2018, qui a participé donc, à la loi Egalim, qui était donc en discussion en 2018. Et notre association est parvenue à un amendement à cette loi qui interdit le plastique de réchauffe dans la restauration scolaire d'ici 2025. Donc les collectivités travaillent actuellement à changer leurs pratiques.
Et donc quelles étaient les solutions pour enlever ce plastique dans les cantines?
Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a soit remplacer les barquettes en plastique par des bacs inox. Donc on reste en liaison froide. On ne change pas finalement de process industriel. On continue de préparer les repas à l'avance, de les livrer, de les réchauffer, mais dans des bacs inox qui sont ensuite lavés et réutilisés, remis dans un circuit. Donc là, il n'y a plus de matière plastique. Ça, c'est une des solutions. Une autre solution, c'est de renoncer à la liaison froide et de passer à de la cuisine sur place, ce qui est meilleur pour les enfants, puisque là, on a une alimentation qui serait cuisinée le jour même, donc beaucoup plus fraîche. Et la fraîcheur est un élément de la qualité de l'alimentation.
Vous nous avez donc parlé des pétitions que vous avez mises en place, notamment une charte de cantine sans plastique France que vous avez maintenue lors des élections municipales en 2020 et lors des élections départementales et régionales en 2021. Où en est ce projet?
Alors, l'alimentation, c'est un sujet éminemment politique. Il y a différents aspects. Ça fait intervenir l'agriculture, ça fait intervenir aussi nous, les consommateurs. Parfois, certains consommateurs sont captifs. C'est le cas des écoles, puisqu'un enfant n'a pas le choix d'aller manger dans la cantine d'à côté ou d'aller dans un autre restaurant qui lui conviendrait. Quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes également captif de ce qu'on va vous servir. les EHPAD, etc. Mmh. La part aussi des collectivités, du budget qu'elles vont réserver à l'alimentation, c'est ça aussi le sujet. C'est pourquoi nous avons, lors des élections, des différentes élections, interpellé les élus en leur faisant signer une charte par laquelle ils s'engageaient, en fait, s'ils étaient élus, à se passer de plastique dans la restauration scolaire. Ça nous permettait de sensibiliser les élus, d'avoir un engagement aussi de leur part pour pouvoir ensuite leur rappeler qu'ils s'étaient engagés et donc d'enclencher une transition pour un autre modèle de restauration sans plastique.
Aujourd'hui, on voit que nous achetons beaucoup, beaucoup de produits emballés. Mais concrètement, quel est l'impact sur la santé ? La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement. Dans la chronique qui déballe, nous décryptons donc nos objets du quotidien pour devenir un consommateur. Parlons donc santé. Nous avons invité Mélanie Lemorcédec, nutritionniste à la Maison de la Santé au Neuf. Selon les dernières études de l'ANSES, l'être humain ingère constamment des micropolluants sans le savoir. Ils se trouvent dans notre nourriture et surtout dans ses emballages. Bouteilles, gobelets, sachets, boîtes et films en plastique sont des objets usuels dans une cuisine. Et pourtant, ils peuvent avoir de lourdes conséquences sur notre corps. Alors, entre une pomme emballée et une pomme non emballée, quels sont les risques et pourquoi choisir l'une et pas l'autre dans un magasin ? Madame Lemorcédec ?
Alors, il y a des études qui commencent à être un petit peu plus fournies actuellement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait trois phases de la vie qui étaient perturbées plus, de manière plus importante. C'est vraiment la grossesse, la petite enfance et la puberté. C'est-à-dire, c'est des âges... Donc notamment les cantines scolaires, quand on s'adresse aux enfants ou aux collégiens, on est dans cette phase-là, les femmes enceintes effectivement aussi. Et les emballages, du coup, moins il y en a, mieux c'est. Ça, c'est une astuce qui va être quand même... Le déchet qui n'est pas créé, c'est quand même le meilleur. Et donc il y a ces phases de vie qui sont hyper importantes. Ça n'empêche que pour le reste de la population, probablement que les études montreront que tout le monde est impacté de la même manière. Mais ces phases-là sont peut-être plus sensibles. On se rend compte en fait qu'il y a des effets sur la santé à plusieurs niveaux. Donc on pense beaucoup à la fertilité, on pense à la croissance, au développement, donc notamment pour ces raisons-là qu'on cible plutôt la petite enfance et la puberté. Mais on se rend compte aussi que ça a un impact sur l'humeur, sur la circulation sanguine. Enfin, il y a plusieurs petites choses comme ça qui se développent de plus en plus. Sur le sommeil, la qualité du sommeil, donc c'est beaucoup plus large finalement que simplement une problématique de digestion. Et il y a plusieurs voies qui sont utilisées. Il y a la voie respiratoire, qu'on a tendance un petit peu à oublier, la voie cutanée, donc extérieure, le corps, la peau, et la voie muqueuse, c'est-à-dire la voie digestive. C'est-à-dire, on va dire que c'est un petit peu notre peau à l'intérieur du corps, mais c'est celle qui va être impactée quand on mange. Donc voilà, c'est finalement ça. Pardon, c'est assez large comme effet. Et voilà, donc les effets, on les connaît. Après, il faut changer nos habitudes, il faut revenir sur des choses un petit peu plus basiques, qu'on avait l'habitude de faire. Là, je reprends l'exemple qui a été nommé dans les cantines. Les gastronormes en inox, ils ont toujours existé. C'était la base de la restauration scolaire ou collective. Et simplement, il y a eu à un moment donné des process industriels qui ont fait que les choses ont changé. C'est moins lourd, c'est effectivement... Pas mal de choses à prendre en compte également. Donc le travail des gens qui travaillent dans les cantines, enfin le port, les charges, etc. Donc il y a eu des choix qui ont été faits à un moment donné. Effectivement, c'est très politique. Et ces choix-là, on les fait aussi, nous, au quotidien, dans nos cuisines. Et donc revenons vers des choses plus inertes, le verre, l'inox, effectivement, qui sont des la terre, enfin les produits, la porcelaine, enfin la vaisselle classique. Évitons effectivement aussi les reports vers l'aluminium ou vers les films plastiques qu'on va chauffer ou des choses qu'on va faire. La chaleur est vraiment à éviter fortement, et les longues durées, c'est-à-dire plus ça reste longtemps, plus le contact est long et plus le passage des particules peut être important.
Alors je sais pas pour le public, mais moi je me demande vraiment comment ça se fait que mon emballage plastique va influencer, va polluer ma nourriture. De quelle manière, qu'est-ce qui se passe comme processus?
Alors il y a des transferts qui vont se passer entre, c'est vraiment du contact, hein, ça va se transférer d'une matière à l'autre. Alors il y a les contacts qui ont lieu de manière totalement logique. Par exemple, je parlerai beaucoup de quand on fait tremper ou mariner des produits dans l'huile. On utilise ces transferts-là, les épices qui vont passer ou les saveurs de l'huile qui vont passer dans l'aliment. C'est des choses qui sont utilisées en cuisine, hein. C'est des choses tout à fait normales. Mais par contre, effectivement, quand il y a des contacts et des choses négatives dans un produit, on risque de les retrouver dans l'autre produit. Donc c'est des choses qui sont communes, qu'on connaît depuis de longues années, mais simplement, effectivement, quand il y a des polluants, ça devient problématique. Et effectivement, le passage va être accentué quand il y a effectivement une durée plus longue et une chaleur qui va diffuser comme si on accélérait le processus.
Donc je pense que la réponse va de sens, mais alors chauffer, prendre mon thé dans un gobelet en plastique, par exemple, c'est pas vraiment conseillé.
Alors le thé, à la rigueur, on pourrait se dire il est pas non plus très très chaud, mais bon, il est dans un emballage. Par contre, réchauffer, par exemple, au micro-ondes, des repas qui sont dans des barquettes en plastique, effectivement, c'est le meilleur moment, enfin c'est le meilleur moyen de diffuser totalement les particules dans l'aliment. Donc revenir à des contenants, notamment pour cuisiner, à vraiment des contenants, alors des casseroles, des matériaux en terre. C'est vrai qu'on a tendance à oublier cela, mais les plats en terre sont très pratiques, hein, le plat à Beckehoff en Alsace, il peut être plus ou moins grand. Mais voilà. Après, c'est des habitudes qu'on a prises, et le changement d'habitude peut être complexe aussi, hein. Revenir et revenir sur des choses, c'est pas toujours évident, donc on peut prendre le temps d'y réfléchir.
Et alors, en tant que nutritionniste, pour vous, qu'est-ce que signifie un repas sain et durable ?
Alors, le repas sain et durable, ça va être effectivement, on y pense déjà au moment de l'agriculture. Donc, on peut penser au bien-être animal, on peut penser à la manière dont on a cultivé les légumes. Alors, au jardin de la Montagne Verte, on sait comment ils sont faits parce qu'on les voit pousser. Y a une cohérence, en fait, qu'il faut essayer de trouver. La proximité, la saison. Ça, c'est des choses qui sont aussi du bon sens, par faire venir des choses qui viennent de très loin. Et puis, une fois qu'on les a cuisinées, le plus frais possible, ça c'est quand on peut, c'est l'idéal, parce qu'on sait que les vitamines sont détruites à la chaleur ou avec l'oxydation. Donc, les éléments protecteurs des aliments sont vraiment quand même là quand l'aliment est mûr et cueilli à maturité ou ramassé juste à point. Et puis, le moins de déchets possible. La vaisselle avec l'utilisation de peu d'eau peut être totalement cohérente et des produits les plus inertes possibles. Donc effectivement, on revient aux bocaux, vous savez, les lunchbox en verre. Voilà. Ils ont encore les couvercles en plastique, certains, mais souvent il n'y a pas le contact, donc c'est important de ne pas avoir cette proximité de l'aliment avec le produit. Les grosses problématiques se posent avec les produits en conserve. Et là aussi, dans les magasins, on voit de plus en plus d'industriels, enfin, tout doucement. Mais on en voit qui repassent à des bocaux en verre. Donc,
ça se fait.
Revient, les petits pois carottes.
Il y a encore beaucoup de plastique, mais ça revient.
Il y a encore beaucoup de métal et de plastique, mais ça revient. Et on voit, par exemple, des salades de fruits en sirop, des bocaux qui sont en verre. Et on y voit ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça, c'est intéressant aussi. Et il y avait une raison aussi à ne pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais voilà, on voit mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, ça se fait de plus en plus et ça revient, donc c'est très bien. Il y a des poissons, de nouveau, qui sont en bocaux. Des petits pois carottes ou des aubergines ou des choses comme ça. Donc ça revient et tant mieux.
Je me tourne donc vers le public. Est-ce que ce sont des conseils qui peuvent être abordables au quotidien ? Vous pouvez hocher la tête, dire un grand oui. Oui ? Oui ? On peut faire ça au quotidien alors ? Ah, monsieur, je vous laisse la parole, on vous donne le micro. En quoi c'est compliqué alors ?
Dans différents établissements, des raisons sociales ou pensant de famille, etc. Parce que vous parlez du coût également. Parce que tout est question de coût. Et on est dans la réduction de coût. Et donc tous les produits dont vous parlez, qui sont en bocaux, qu'on peut trouver dans une vie saine, on va dire, pour schématiser, ont du mal à trouver un public, mais un public qui a les moyens. C'est-à-dire que soit il y a des initiatives où on peut trouver des aliments à des tarifs préférentiels, ou soit avec les coûts de la vie, etc., c'est très 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 compliqué pour les personnes dont on s'occupe de pouvoir trouver les moyens d'avoir des produits sains. Parce que là, je prends l'exemple... Excusez-moi.
Non, mais bien sûr, allez-y.
Je prends l'exemple de ce qu'on nous a proposé comme... le gouvernement a proposé aux industriels de faire des aliments ou des produits essentiels pour le public. Et le souci, c'est qu'on se retrouve avec des produits essentiels qui sont des conserves, des produits la malbouffe, beaucoup de sucre, beaucoup de... on sait d'où ils viennent. Et et donc qui d'une part qui sont, bah, j'ai failli dire dégueulasses, mais c'est pas le terme, mais d'ailleurs qui sont pas bon à manger, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'on se retrouve avec des initiatives comme les vôtres ou ailleurs? Et moi j'ai le sentiment que c'est très minime. Et qu'on n'en parle pas. On parle beaucoup de choses qui sont totalement catastrophiques, notamment au niveau de la malbouffe, les pubs au taquet, etc. On sait que tel verre a beaucoup de sucre, tel truc a du gras, mais en nous faisant ça, on tire la rigole. Donc, est-ce que c'est pas un combat entre David et Goliath, en fait.
Donc, que ces initiatives, qui sont de belles initiatives, ne sont pas assez mises en valeur, c'est
ça ? Oui, parce qu'on a l'exemple de nos ministres de la transition écologique. On ne va pas entrer dans les détails politiques. Et j'ai le sentiment qu'on tourne à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui sont de bon sens, mais à l'inverse, on va nous dire que le plastique, on va l'enlever d'ici 40 ans. Que certains pesticides, c'est interdit en Europe, mais nous, on va le garder parce que l'économie. Et donc, le souci, c'est que est-ce que vraiment c'est à donner un coup de pied dans une fourmilière, en fait? Et est-ce que même au niveau des gens, c'est que c'est le porte-monnaie qui changera la donne, à mon sens. Si on a retrouvé des produits biologiques ou sains, à des tarifs préférentiels, là, on pourra gagner une bataille. Mais pour l'instant, c'est quels sont les moyens qu'on peut avoir pour. Moi, je travaille en pension de famille. Les gens dont je m'occupe, c'est une question financière pour acheter les bons produits. Et heureusement qu'il y a des initiatives comme les vôtres où on peut y adhérer, parce que certaines personnes, nous, on a les moyens d'avoir une culture, d'avoir un combat. On y croit, mais c'est donner un coup de pied à notre formulaire, à mon sens.
Et comment toucher plus de monde, alors, Madame Quintalet ?
Alors oui, l'alimentation, c'est un combat. Oui, l'alimentation, il faut la défendre, que ce soit au niveau politique ou chacun d'entre nous, puisque tous les choix que nous faisons implique derrière d'autres conséquences. Ce qui n'est pas vendu n'est pas produit. Donc n'oublions jamais cela. Ensuite, vous le dites, il faut des moyens pour s'alimenter correctement. Mais nous sommes également toutes et tous soumis à la publicité qui influence nos choix et pas forcément dans le bon sens. Je vais vous prendre un exemple très très simple que j'utilise assez souvent pour illustrer. Vous souhaitez que vos enfants mangent des fruits. Vous savez, ces petites gourdes dans les supermarchés où vous ne voyez pas à l'intérieur la purée, vous la dégoupillez et je vois plein d'enfants
les compotes à manger de
ça. Ça coûte très très cher. Quand vous achetez ces produits-là, vous payez l'emballage, ça vous coûte très très cher. Mais in fine, votre enfant, qu'est-ce qu'il a mangé à la fin? Vous ne le savez même pas puisque vous ne voyez même pas le produit qu'il y a dedans. Et en plus, on en revient au sujet de cette émission. La compote qui est contenue dans cette poche, dans cette gourde, elle se gorge de plastique. Donc là, vous payez très très cher. Il faut savoir que les emballages représentent entre 15 et 20% du coût de l'aliment. Donc quand vous achetez une gourde, vous payez 15 et 20% de plastique que vous allez mettre à la poubelle. Achetez une pomme, allez directement au rayon fruits et achetez une pomme. Vous ne paierez pas l'emballage. Vous n'aurez pas de pollution plastique puisqu'il n'y a pas d'emballage et votre enfant bénéficiera pleinement et entièrement de la pomme parce que c'est ça votre but à ce moment-là. Donc vous voyez, on peut aussi parfois très simplement, en s'écartant un petit peu de la publicité et des emballages qui ont plein de couleurs, faire les bons choix. Et je dirais que parfois, aller faire les courses sans ses enfants, ça peut aussi nous aider à faire les bons choix.
Donc finalement, ce que vous dites, c'est pour allier économie et écologie, c'est aussi d'aller directement à la source, en fait. C'est sans utiliser tout ce qui est marketing, sans se faire influencer par ce qu'on nous propose au magasin. C'est de prendre le produit à la source.
Oui, vous savez, il y a, puisqu'on est en Alsace, je vais me permettre une petite expression. Weniger ist mehr. En allemand, ça veut dire moins, c'est mieux. Et souvent dans la vie, les choses les plus simples peuvent vous protéger contre un tas de problèmes. Une pomme, c'est mieux qu'un produit dans une gourde dont on ne voit même pas le produit parce qu'on est des êtres humains. On n'est pas fait pour manger des choses qu'on ne voit pas. Revenons à la source, on est fait pour prendre un produit, le voir et le manger. Gober quelque chose qu'on ne voit pas, même psychologiquement, c'est pas quelque chose de bon. La publicité nous amène toujours vers des choses de plus en plus compliquées. Mangeons simplement, vous voulez acheter de la viande, achetez-la, allez au rayon boucherie, vous achetez le morceau de viande que vous voyez devant vous. Est-ce que la viande est fraîche? Est-ce qu'elle est grasse?
en pleine connaissance de cause, vous faites votre choix plutôt que d'acheter des produits tout faits qui sont emballés dans des barquettes où vous mettrez au micro-ondes et vous ouvrirez, vous retirez l'opercule, mais à l'intérieur, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans, quoi. Or, bien sûr, parfois, on n'a pas le temps et on a tous recours plus ou moins à des produits
transformés.
Mmh. Mais il faut bien se dire que ça doit être exceptionnel. Et effectivement, l'alimentation nécessite de la connaissance et de l'information. On ne peut pas bien s'alimenter si on n'a pas été sensibilisé soit par sa famille ou soit après, comme ce qu'on fait là, s'informer par divers moyens sur comment bien s'alimenter pour être en bonne santé.
Et c'est tout notre objectif avec la chronique qui déballe. Merci Madame Quintalet. Peut-être Madame Le Marsedec.
Oui, juste un petit commentaire pour revenir. J'aime bien le terme de consommateur. C'est-à-dire que finalement, on pense qu'on n'est rien et qu'on est une petite goutte. Et en fait, si on fait tous des choix communs, on devient une grosse goutte. Là, le recours à des collectifs ou à des associations, c'est important. Mais effectivement, même isolé, on peut faire des choix dans nos pratiques. Et l'autre petit mot que je voulais dire, c'est l'organisation. Et l'organisation, parfois, permet d'aller vers ce qu'on souhaite à moindre coût. Et ça, c'est le quotidien, un petit peu, quand on est avec les gens au quotidien, qu'on fait des ateliers cuisine ou des consultations individuelles. C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on évoque. Mais aussi, sans se mettre trop la pression et faire les changements, de prendre le temps aussi de faire les changements, mais en fonction de ce qu'on souhaite. Donc, c'est un peu paradoxal, hein, ce que je dis, mais... On veut aller vite, on veut faire des changements, oui, mais l'humain va à son rythme aussi.
Merci beaucoup. Nous comprenons donc qu'il est dangereux pour l'être humain d'ingérer ce type de micropolluants. Mais quelles sont ces microparticules qui se cachent dans nos emballages et est-il possible de les identifier? Restez avec nous pour continuer cette discussion après une courte pause musicale. Écoutons tout de suite Carbon Monoxide, un titre du groupe Cake. Too much carbon monoxide for me to bear.
After car, after truck, after this my lungs will be so fucked up. I wish I was in that Mercedes Benz, sealed away from my sins. I'd have the music high going 95. Carbon monoxide for me to bear. Hey, too much carbon monoxide for me to bear. Don't you care? Don't you care? Don't you care? Don't you care?
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
C'était Carbon Monoxide, un morceau du groupe Cake. Vous écoutez toujours la chronique qui déballe, une émission pour et par les habitants du quartier du Neuf. Nous sommes en direct avec le public de la Maison de la Petite Enfance et nous traitons une problématique qui a des conséquences lourdes sur notre santé et l'environnement. Comment s'alimenter sans emballage et contenants plastiques? Madame Le Marsedec a donc mis en lumière l'impact que peut avoir sur notre santé cette consommation souvent involontaire de plastique. Mais quelles substances sont remises en cause exactement? Pour le comprendre, nous sommes avec Monsieur Dessèze, administrateur de l'association locale UFC Que Choisir du Bas-Rhin. C'est une association qui est notamment connue pour sa revue qui décrypte les objets de consommation et leurs composants. Alors Monsieur Dessèze, combien de types de plastiques peuvent être utilisés pour emballer ces aliments et comment les identifier du moins dangereux au plus dangereux?
Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais remercier les deux invités précédents dont les discours et les principes justifient ou légitiment l'action de l'UFC Que Choisir depuis longtemps. Et je voudrais pour cela mettre en avant le fait que la question de la migration des éléments des emballages dans les aliments date d'un petit peu plus d'une dizaine d'années et a commencé en fait avec les cartons et en particulier les encres sur ces cartons, tout simplement pour donner des éléments d'information sur la composition des aliments. Et ce qui a alerté notre institution et d'autres associations également, c'est le fait qu'il était remarqué la présence d'huiles minérales, en particulier dans les aliments. Les huiles minérales qui sont supposées, d'un point de vue scientifique, avoir des effets délétères sur, en particulier, le système cardiaque, mais aussi, ils peuvent être considérés comme des perturbateurs endocriniens. Et donc, nous avons mené un combat depuis 2010-2011, et combat qui a abouti plus de 10 ans plus tard à l'interdiction de ces substances par l'EFSA, donc par l'Agence européenne de santé alimentaire. Voilà, donc 10 ans de combat pour les cartons, en particulier les cartons surtout recyclés, qui contenaient pas mal de ces encres et donc d'huile minérale. Et donc, quand la prise de conscience d'une problématique proche pour les plastiques est arrivée, nous avons aussi repris cette thématique. Donc, en ce qui concerne les plastiques, le problème, il est déjà quelque part dans la constitution du plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique, c'est tout simplement un dérivé de pétrole obtenu par distillation, ensuite craquage, donc on lui fait subir du très chaud, du très froid, pour le réduire en un certain nombre de substances élémentaires qui vont être polymérisées pour finir dans des composés, des granulés, des poudres, qui vont pouvoir rentrer dans un processus industriel par moulage, par thermoformage, de façon à constituer tous les éléments plastiques qu'on connaît, plus ou moins durs, plus ou moins imperméables, plus ou moins légers, de façon à pouvoir contenir des aliments différents. Le problème vient que l'entropie, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout revient quelque part, ces éléments élémentaires, le plastique fait la même chose. Et donc, que ce soit dans l'organisme après absorption de ces éléments migrés ou dans l'environnement, petit à petit, il se dégrade pour former ce qu'on appelle des microplastiques. Et donc, le danger pour nous, mais aussi pour l'environnement, vient de cette dégradation finale des plastiques. Alors, pour les classer, ça me gêne un petit peu parce que, de toute façon...
Il faut tous les éviter.
Voilà, merci, il faut tous les éviter, on vient de le dire, mieux c'est bien, voilà. Je ne voudrais pas en dire plus, mais par contre... effectivement, le plus grand danger du plastique, c'est quand il est traité par la chaleur. Je dirais un certain nombre de nos habitudes de cuisson, en particulier au micro-ondes, hein, c'est tellement facile de mettre, en plus des produits souvent ultra transformés, donc déjà d'un point de vue qualité nutritionnelle très basse, les mettre directement au micro-ondes, c'est vrai que ça fait gagner du temps. C'est vrai que d'un point de vue écologique, ça dépense peut-être un peu moins d'énergie que la cuisson à la casserole, c'est vrai. Mais par contre, l'impact sur la migration de ces éléments dans les aliments est très très importante. Alors, les substituts, oui, il y en a un certain nombre. On pense souvent à l'aluminium. L'aluminium, c'est pas vraiment mieux. L'aluminium migre également dans les aliments et dans les liquides. Et je pense par exemple aux canettes de soda. L'aluminium des canettes de soda migre dans ces liquides. Ça a été dit tout à l'heure, plus les éléments sont conservés longtemps et plus il y a de migration élémentaire. Et donc, même pour les canettes, il faut regarder la date limite de consommation. Ce n'est pas tellement pour le produit en lui-même, mais c'est tout simplement parce que il y a une migration des éléments dans le soda que vous consommez. Donc même pour ce qu'on pourrait considérer comme inaltérable, eh bien, il faut quand même y faire attention. Alors, en ce qui concerne le plastique, il a une longue vie juridique, puisqu'on parle de son interdiction depuis déjà presque une dizaine d'années, puisque les premiers plastiques à usage unique ont été interdits en 2016 par la loi sur la transition écologique. Ensuite, il y a eu un renforcement avec la loi contre le gaspillage, la loi AGIEC. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, la loi EGalim également est intervenue. Pour ce qui nous importe peut-être un petit peu plus concernant, par exemple, les emballages des fruits et légumes, nous aurions dû voir au 1er janvier 2023 leur interdiction. Alors, pas totale, puisqu'il y a effectivement des produits qui se détériorent très très vite. Mais le lobby agroalimentaire a encore frappé, si je puis dire, puisqu'il y a eu un recours au Conseil d'État qui a reporté l'application de cette disposition de la loi contre le gaspillage. Et donc aujourd'hui, un nouveau décret est en passe de passer.
Pour interdire les emballages plastiques pour les fruits et légumes, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Pour les interdire de façon générale, mais surtout pour, je dirais, réduire la quantité d'exceptions à cette mesure générale. Parce qu'il est vrai qu'un certain nombre de fruits et légumes se détériorent très très rapidement, ne serait-ce que par le biais d'un mûrissement trop rapide ou tout simplement de manipulations qui sont trop compliquées ou qui peuvent endommager le produit même. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir un certain nombre d'exceptions, mais moins il y en a et mieux c'est. Voilà.
Et de la même manière, on a vu ces dernières années un phénomène se développer, c'est surtout depuis le Covid, c'est le manger à emporter, surtout quand on commande sur Internet, sur les sites spécialisés. Et ces restaurations rapides, souvent rapides, utilisent du carton à la place du plastique ou des sachets en papier un peu plus dur. Est-ce que ce sont des solutions viables ?
Alors pour la restauration rapide, il y a effectivement une mesure qui est intervenue en début d'année. Dont l'application n'est pas systématique. J'ai même pu le constater récemment. Dans certains, je ne veux pas les nommer ici, mais dans certaines enseignes, théoriquement, les emballages, je dirais, non recyclables sont interdits depuis le début d'année dans la restauration de plus d'un certain nombre de couverts. Il me semble que c'est 25 ou 50. Dans la consommation sur place. Voilà, sous réserve bien sûr que les stocks actuels puissent être épuisés. Par contre, pour la consommation emportée, il n'y a pas encore d'interdiction particulière, et donc on va retrouver dans ces emballages, je dirais, les mêmes problématiques, même si donc depuis l'interdiction des encres à huile minérale intervient. Alors, on est passé à des encres à migration faible, mais quand je dis faible, il faut entendre quand même avec un peu de migration, donc c'est pas une interdiction totale. Et donc sur ces emballages-là, on va retrouver un peu les mêmes problématiques.
Et avec la nouvelle réglementation, depuis le 1er janvier 2023, on voit qu'il y a vraiment une évolution et un effort pour trier et recycler. Tous les emballages plastiques et papier se trient. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il existera une loi qui interdira totalement la vente de tout type de plastique ?
Alors, c'est déjà prévu. À l'horizon, alors il me semble que c'est 2040, donc c'est quand même très 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 loin, mais c'est déjà prévu. À cet horizon-là, on devrait ne plus trouver dans nos pays européens d'emballage plastique. Alors, il y a un certain nombre de choses qui vont faciliter cette disposition. C'est vrai que le tri, depuis le début d'année, a changé. pour une plus grande simplification et donc une plus grande efficacité. Et en particulier, au jour d'aujourd'hui, même si ces emballages ne sont pas totalement bien lavés, ce qui était demandé à une certaine époque, aujourd'hui, vous pouvez les mettre à Strasbourg dans la poubelle jaune. Quel que soit le type d'emballage, à partir du moment où c'est un emballage, il peut aller dans la poubelle jaune. Donc ça, c'est un... voilà. Avec, bien sûr, derrière, une amélioration de toutes les filières de recyclage, puisque l'important, ce n'est pas tellement le tri. L'important, c'est que chacun de ces matériaux puisse faire l'objet soit d'une destruction totale, soit d'une réutilisation pour d'autres usages, que ce soit des usages similaires pour certains plastiques, c'est possible, ou des usages tout à fait différents. On connaît tous les pulls en matière recyclée, les vêtements, par exemple, voir des recyclages dans l'art ou autre, ce qui est toujours intéressant. Voilà. Donc oui, trier, c'est bien, on le fait de mieux en mieux et on recycle effectivement de plus en plus. La France est un peu en retard, donc là on est en train de rattraper notre retard.
Il est vrai que dans cette société de consommation où tout doit être fait vite, on peut vite se retrouver perdu et choisir une facilité de consommer sans faire attention à notre santé et à l'environnement. Mais quelles sont les alternatives pour consommer nos aliments sans plastique? Pour le savoir, restez dans la chronique qui déballe. Mais d'abord, voici l'agenda. Aujourd'hui, il y aura une Green Walk organisée par les éco-volontaires d'Inicité. Rendez-vous à la place de la gare à 14h pour un ramassage de déchets tous ensemble dans la ville. Un spectacle de danse, mais pas que. Le mardi 11 avril à 19h, découvrez le danseur et humoriste Kian Kossoy pour son spectacle Grand Écart au centre chorégraphique Pôle Sud. La Résu vous invite à son Kilo Shop mensuel. Le mercredi 12 avril de 9h à 13h, une vente de vêtements d'occasion pour tous où 1 nœud 1 kilo égale 3 euros. C'est aussi le jour où le CSC Lupovino vous propose un temps de jardinage à faire bouture et semis de 14h à 18h au prix de 2 euros. Et pour finir, si vous aimez l'électro, rendez-vous au Centre Culturel Espace Django le vendredi 13 avril à 20h30 pour une soirée au rythme de Roman Santarelli et Colin Marianne. Petit rappel, nous sommes dans la chronique qui déballe depuis la maison de la petite enfance au Neuf. Nous parlons de l'impact des emballages alimentaires sur notre santé et l'environnement. Passons tout de suite aux solutions. Pour cela, nous avons invité deux initiatives strasbourgeoises pour une consommation saine et sans déchets. Accueillons les Jardins de la Montagne Verte, un lieu de production bio, local et solitaire. Je me tourne donc vers vous. Les Jardins de la Montagne Verte proposent des légumes bio directement dans chaque quartier. Expliquez-nous un peu le fonctionnement des paniers.
Alors, c'est vrai que nous, on est une association qui est donc les Jardins de la Montagne Verte. On a été créé en 2001 par Madame Fatima Riahi, avec d'abord comme premier objectif de permettre aux personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc longtemps au RSA et au chômage, de se réinsérer. Et comme moyen de réinsertion, on a décidé en 2001 d'utiliser le maraîchage biologique. Donc à ses débuts, c'était seulement 10 salariés sur un terrain prêté par la ville, où on faisait du maraîchage. Et aujourd'hui, c'est plus de 150 salariés en insertion qui travaillent tous les jours avec un contrat pour justement proposer une alimentation saine et durable sur l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, on propose des paniers de légumes toutes les semaines ou toutes les deux semaines sur 16 points de dépôt à Strasbourg. Donc, on s'abonne pour 6 mois ou un an et on vient récupérer son panier de légumes qui est bio et avec des légumes de saison.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une ordre de prix? Est-ce qu'il est possible finalement de concilier économie et écologie?
Alors, actuellement, sur des abonnements, on a des paniers à 10 euros pour une à deux personnes. On a plusieurs offres, un petit panier, un moyen et un grand. C'est vrai que le prix, c'est le cours du prix des légumes bio. On essaye quand même malgré tout à côté de proposer des initiatives un peu plus accessibles. Donc c'est pour ça aussi qu'on a mis en place la solution Too Good To Go, parce qu'on a quand même malgré tout des légumes qui sont à un prix abordable et malgré tout encore frais. On a aussi les paniers solidaires. Donc c'est une initiative qu'on a mise en place il y a quand même quelques années. Donc c'est des paniers qui sont... À une hauteur de 10 euros que l'étudiant ou que des familles avec un coefficient social qui correspond à l'offre peuvent acheter à 4 euros. Donc au lieu de payer un panier à 10 euros, on peut l'acheter à 4 euros. Donc on essaye quand même à côté de proposer des solutions un peu plus accessibles.
Et où est-ce que je peux récupérer mon panier si j'ai envie d'adhérer à ce principe ?
Alors on a 16 points de dépôt dans toute la ville de Strasbourg. À peu près un peu partout. On essaye de se développer pour vraiment rendre accessible à tous.
Et vous avez beaucoup d'adhérents aujourd'hui ?
On a beaucoup d'adhérents, ouais. C'est vrai que pendant le Covid, on en a eu encore plus parce que les gens se sont rendus compte que mieux consommer, c'était important et c'était aussi un peu plus simple. Plutôt que de se faire livrer de la consommation rapide, on se fait livrer des légumes et on cuisine. On avait le temps de cuisiner, donc c'est plus simple.
Et de façon concrète, est-ce qu'il est possible de se rendre concrètement sur le lieu de production ? Est-ce que je peux visiter et voir à quoi ressemble un lieu de production bio ?
Oui, alors c'est possible. Il faut en faire la demande. Et après, on peut organiser ça. Il y a d'ailleurs bientôt la journée du 8 mai où on aura des portes ouvertes et où on proposera des plans pour pouvoir... agrémenter les jardins de particuliers, enfin ceux qui se motiveront à venir en tout cas. et puis, y a aussi la semaine de l'alimentation où on propose des visites, il y a des goûters avec justement des préparations qui ont été qui seront faites par la cuisine, parce qu'on a un atelier cuisine qui transforme les légumes qu'on produit. Donc voilà, si vous faites la demande, vous tomberez sûrement sur moi ou un de mes collègues, et on peut faire ça. Et je voulais juste revenir sur une chose de ce qu'on disait par rapport au plastique et aux perturbateurs endocriniens, c'est que au Jardin de la Montagne Verte, nous par exemple, on utilise, donc on fait un compost, on utilise tous les déchets verts qu'on produit dans la préparation de légumes avant de composer les paniers ou dans la culture, quoi. Et en fait, il y a des personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, par exemple, du fumier de vache ou quoi. Alors, c'est quelque chose qui se fait, c'est possible. Mais nous, si on ne le fait pas, c'est parce que c'est un peu compliqué d'avoir cette débouchée-là. Et quand bien même ça se fait, il faudrait que les animaux qui produisent ce fumier ne soient pas, ne prennent pas, par exemple, d'antibiotiques. Je pense à des chevaux de course ou des élevages intensifs, puisque en fait, ces éléments chimiques qui sont néfastes pour l'homme vont se retrouver dans leur excréments qu'on va utiliser et qui vont pas disparaître entre-temps. Parce que, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Mais pas forcément en bon. Donc voilà, c'est pas forcément une aberration de pas utiliser le fumier animal, quoi. Voilà, voilà.
C'était donc Adrienne et Abdelkader des Jardins de la Montagne Verte, une des premières solutions qu'on propose. Mais en parlant de panier, l'Eurométropole de Strasbourg a pris à cœur cette problématique des micropolluants dans nos assiettes. Situation dangereuse pour un adulte, mais d'autant plus nocif pour les tout-petits et futurs mamans. Pardon. Voilà pourquoi les défricheurs ont invité un animateur de l'initiative Ordonnance Verte, mise en place par l'Eurométropole de Strasbourg. Bonjour Monsieur Fontenot. L'Ordonnance Verte est un dispositif qui a pour but de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Pouvez-vous nous expliquer comment est né le projet et quels sont ses enjeux ?
Bonjour à tous. Oui, alors en fait, ça a commencé en 2018 avec l'appel à toutes les communes motivées pour se lancer dans des territoires sans perturbateurs endocriniens, donc par la signature d'une charte. Donc à ce jour, je crois qu'il y a environ une centaine de communes qui ont signé cette charte. Et donc la ville de Strasbourg s'est engagée également en 2018. Il y a eu un certain nombre de projets qui ont été lancés depuis, notamment le jardinage sans pesticides. Donc là, c'était pour sensibiliser les jardiniers aux bonnes pratiques. Et également dans les crèches avec la réalisation d'un guide. Et enfin, donc un premier test qui a été fait pour sensibiliser les, les femmes enceintes au risque des perturbateurs endocriniens pendant leur grossesse et en fait pendant 1000 jours. C'est la fenêtre pendant laquelle il faut être particulièrement vigilant. C'est donc la période de grossesse et les deux premières années des petits. C'est là où ils sont le plus sensibles aux perturbateurs. Et donc ça a été une opération qui a bien fonctionné et donc cette année la ville de Strasbourg a souhaité lui donner plus d'ampleur en sensibilisant 800 femmes sur une année. Ça a commencé en novembre de l'année dernière, donc ça va continuer jusqu'à novembre de cette année.
Et d'où vient alors le nom d'ordonnance verte? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, ordonnance, parce que en fait, donc il y a tout un parcours et les femmes peuvent donc faire appel à leur gynécologue ou aux sages-femmes, donc à un certain nombre de professionnels qui ont été mobilisés autour de l'action. On peut leur prescrire une ordonnance qui leur permet ensuite de suivre le dispositif qui consiste à participer à deux ateliers. Le premier, donc, pour sensibiliser les femmes aux perturbateurs endocriniens, savoir dans quels produits on les retrouve et comment s'en prémunir. Et un deuxième atelier sur l'alimentation, une alimentation saine pour soi, pour bébé et pour l'environnement. Et donc ensuite, fini de motiver les personnes pour participer. C'est donc une offre de 27 paniers de légumes bio pour toutes les femmes qui participent. Donc effectivement, les jardins de la Montagne Verte font partie des producteurs de légumes locaux.
Vous l'avez dit, un des deux ateliers s'intitule « Repenser mon assiette pour mon bébé et la planète ». Est-ce que vous pouvez nous donner quelques solutions que vous y abordez en tant qu'animateur lors de ces ateliers?
Alors, autour du premier atelier ou du second?
Du deuxième.
Un des premiers conseils, c'est d'avoir... en fait, il n'y a pas d'alimentation particulière quand on est enceinte. On recommande d'avoir une alimentation équilibrée, saine et variée. On parle de la pyramide alimentaire, où il faut donc... Oui, une des bases de l'alimentation doit être justement les légumes et les fruits. Donc c'est la fameuse recommandation de manger 5 légumes et fruits par jour. Alors 5 portions, hein, je précise. Et après aussi, on parle de l'alimentation carnée et comment peut-être aussi un petit peu limiter cette alimentation carnée qui a alors plusieurs impacts en termes d'environnement aussi par rapport aux émissions de gaz à effet de serre pour la viande bovine, la viande rouge, tout ce qui est viande rouge. Et on sait aussi que l'excès de consommation de viande rouge pas très bonne pour la santé. Il y a des liens avérés avec le développement de certains cancers.
Et quelle démarche faut-il faire pour avoir accès à ce dispositif? Est-ce qu'il y a encore des places disponibles?
Oui, il y a encore des places disponibles, même si il y a eu un réel engouement pour le dispositif. Et on a déjà atteint... les chiffres, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'on est presque à 600 femmes inscrites déjà. Mais il y a encore des places, oui.
Et qu'en est-il alors?
Et pour s'inscrire, donc, c'est sur le site internet de Strasbourg, hein, si vous tapez sur Google ou tout autre moteur de recherche, perturbateur endocrinien ou ordonnance verte, tout simplement, vous allez tomber sur la page de la ville de Strasbourg et puis vous aurez toutes les recommandations pour vous inscrire ou sinon auprès de vos professionnels si vous êtes enceinte.
C'est bientôt la fin. Est-ce que nos intervenants ont un dernier mot pour s'exprimer? Oui, monsieur Dessèze.
En matière de plastique, on n'est jamais à l'abri de l'innovation, puisqu'aujourd'hui, on parle aussi d'emballages actifs qui vont contenir un certain nombre d'éléments pour maintenir certains de nos aliments plus longtemps. Et donc, supprimer l'oxygène dans l'emballage, supprimer également l'éthylène qui accélère le mûrissement. Bref, utiliser cette capacité de migration d'un certain nombre d'éléments vers les aliments pour avoir une action dessus. Donc, je dirais le schéma général, quel qu'il soit, je pense qu'il faut revenir à la nature. On parlait tout à l'heure de manger ce qu'on voit. Bah oui, manger ce qu'on voit et le plus près possible et le plus naturel possible.
Les jardins de la montagne verte.
Oui, si on a un conseil à donner, c'est de toujours essayer de se rapprocher de la matière première. Évidemment de se renseigner sur le type de culture. Donc si c'était bio, biodynamique, évidemment c'est mieux. Et comme disait madame, voilà, il y a les Allemands encore. Hein. Ils ont une expression qui dit on mange ce qu'on est. Du bist, was du ist. Et en fait, les produits qui sont présents sur le marché aujourd'hui, ils peuvent être très transformés. Ça devient complexe de comprendre ce qu'on mange. Mais il faut essayer de simplifier les choses et pas. Et comme pas tomber dans le piège du marketing où justement on va acheter une idée, une image et pas le contenu finalement du produit qu'on vise quoi.
Peut-être également, on l'a peut-être pas mentionné pour nos auditeurs, comment on retrouve l'adhérence pour les jardins de la montagne verte, pour les paniers ?
Alors on a actuellement un site internet qui est en maintenance, donc pas pour l'instant sur internet, mais on peut se donner rendez-vous au 5 avenue du cimetière, c'est à Königshofen, et quelqu'un vous recevra avec le sourire.
Sinon ça, cet après-midi à la gare. De 16h à 19h, on va distribuer des paniers réservés.
Dans un marché.
Madame Le Morcedec.
Je voulais juste dire un dernier petit point. Je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et on a appris à déléguer en fait, notre alimentation. Et je pense que c'est aussi intéressant de reprendre un peu les choses. On a fait confiance et en fait, peut-être que... Il vaut mieux un petit peu se méfier, mais même si la confiance, c'est une belle chose. Mais notamment dans le domaine de l'alimentation, il y a beaucoup, beaucoup de délégations qui ont été plutôt nocives pour le moment. Donc si on peut revenir à quelque chose qu'on fait soi-même et qu'on fait peut-être de manière collective aussi, c'est intéressant.
Et Madame Quintalet, peut-être un mot pour la fin ?
Je partage entièrement tout ce qui a été dit, ce qu'a dit monsieur, effectivement. Il faut ne jamais oublier qu'on est constitué de matière. Et donc, ce qu'on est, c'est ce qu'on mange. Donc, la santé, c'est le trésor le plus précieux et pourtant, actuellement, de nos jours, le plus mal gardé. Donc, faisons attention à notre santé, à l'attention peut-être de nos auditeurs sur les produits transformés et non transformés. Une petite astuce, quand vous lisez les ingrédients d'un produit, vous savez, liste des ingrédients, beurre, huile, machin, si jamais vous ne comprenez pas ce qui est écrit, eh ben écoutez, c'est que le produit est transformé, qu'il y a des produits chimiques dedans. Donc tournez-vous vers un produit où quand vous lisez la
composition,
eh ben beurre, vous savez ce que c'est, œuf, farine. Mais dès qu'il y a des E, etc., et qu'il y en a toute une liste, évitez-le, tout simplement.
Et durant l'émission, on a donc compris qu'il fallait faire très attention à ces plastiques dans notre alimentation. Il y a quelques phrases qui m'ont marquée, notamment « ce qui n'est pas vendu n'est pas produit ». Je trouve ça très intéressant comme façon de penser. « Le déchet qui n'est pas créé non plus n'est pas à jeter, finalement ». Et une information qui, moi, m'a beaucoup marquée, c'est que les emballages représentent 15 à 20% du prix de l'aliment, qui est quand même assez impressionnant lorsqu'on va faire nos courses. C'est des informations qui restent en tête. Un grand merci au Jardin de la Montagne Verte d'être venu aujourd'hui pour participer à cette émission, à Pierre-Jean Dessèze qui fait partie de l'association locale UFC Que Choisir du Bas-Rhin, Ludivine Quintalet qui était cofondatrice de la cantine sans plastique Strasbourg, Mélanie Le Morcedec, nutritionniste à la Maison de la Santé au Neuf, et Jérôme Fontenot, animateur des ateliers de l'Ordonnance Verte. Merci également à la Maison de la Petite Enfance Neuf et à son public pour nous avoir accueillis aujourd'hui et à la ville de Strasbourg pour son soutien. Et n'oubliez pas le dernier épisode de la chronique qui déballe qui aura lieu le 26 mai à l'espace interassociatif La Ruche 35 au quartier Spar. À cette occasion, nous essayerons de comprendre comment un quartier sans déchets n'y en comprend, ça fait du bien à ma santé. À tout bientôt et prenez soin de votre santé et de l'environnement.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.